Chapitre 10. Le douzième apôtre. J'avais repris tout mon sang-froid et, pour la première fois, j'établissais une connexion entre mon aventure présente et les événements de la dernière nuit. Ce mot, le Judas, me rendit comme un ressouvenir de mes démangeaisons. Je comptais les pots de bique de l'enceinte. Il y en avait 11. Un des 12 apôtres manquait. Après tout, mon danger n'était peut-être pas si grand. Tout roulait sur une méprise. On me prenait pour le Judas. Mais qui était ce Judas? Et me donnerait-on le temps de m'expliquer? Autre question. Qui avait-il derrière le dolmen, à l'endroit d'où étaient partis les 3 mots de trompe, lesquels 3 mots étaient destinés, selon la croyance de mon orgueil, à porter en forêt la grande nouvelle de mon arrivée? Une ou deux minutes se passèrent, pendant lesquelles je pus me faire cette question et bien d'autres. En somme, mes ennemis avaient de bien mauvaises figures, mais ils ne bougeaient pas, et j'étais armé. La curiosité s'emparait de moi de nouveau. Il y avait un détail véritablement singulier. En avant du dolmen, quand il se faisait un mouvement parmi les apôtres, je pouvais voir une petite table en bois de sapin toute neuve. Sur la table se trouvait une écritoire, du papier, des plumes et une sonnette de bonne taille qui devait appartenir à quelque sacristie voisine. On y voyait en outre un certain nombre de rondelles blanches qui me parurent être des bougies d'enchères. La taille respectable des pistolets de M. Merlin avait fait reculer les plus indiscrets parmi les membres de la populace forestière et je n'entendais plus causer derrière moi sous le couvert. Dans l'enceinte, on hésitait de plus en plus. Les regards ne tuent pas, heureusement. Sans cela, j'eusse déjà souffert 1000 morts. Tout d'un coup, la cohue des petites gens se mit à crier. « Voilà Saint-Pierre ! Voilà Saint-Pierre !» Et ils se dirigeaient vers moi des œillades qui menaçaient et triomphaient à la fois. C'était ce Saint-Pierre qui me devait mettre à la raison, sans nul doute. Saint-Pierre, le 12e apôtre, avait été jusque-là caché derrière le dolmen. Quand il sortit de son abri, je reconnus le gentilhomme qui tout à l'heure accompagnait ma belle amazone chasseresse, vivant portrait de ma petite cousine. Il avait maintenant, comme les autres, la branchette d'épines au chapeau. C'était ma foi un assez beau brin de monsieur, mieux habillé et mieux lavé que les autres. Son surtout était fait avec des peaux de blaireau et bordé de martres du pays qui sont fort belles. Les chaînes de ses montres tintaient sur le satin de sa soubre-veste et il avait des bagues à tous les doigts. Derrière lui venait mon amazone. Et combien elle me parut jolie, malgré le froid que ma situation mettait dans mes veines. Elle avait la tête nue maintenant. Sous la sombre menace du ciel, ses cheveux paraissaient plus noirs, son teint plus mat. Le nom de Vivette vint encore à mes lèvres. Une fois, le grand orage d'équinoxe nous avait surpris, ma cousine et moi, dans le bois de Quat-Anoz. Ses cheveux et ses joues étaient ainsi sous la lueur cuivrée qui tombait des nuages. Aussitôt que le charmant visage de l'inconnu se montra, dépassant les profils du dolmen, son regard se fixa sur moi. Elle avait toujours en bandoulière son petit fusil de nacre et d'argent. Un doigt de sa belle main toucha ses lèvres, qui avaient un singulier sourire. C'était hasard, peut-être, mais je pris cela pour un signal et je mis la main sur mon cœur. Au cours de certaines aventures qui sont elles-mêmes romanesques, les choses impossibles peuvent devenir invraisemblables. En ce moment, j'aurais juré sur mon salut que l'Amazone était Vivette et que son geste me disait « Sois prudent, je veille sur toi ». Quelle fût illusion ou réalité, cette croyance me rendit tout mon courage. « eh bien, dit Saint-Pierre en rejoignant le reste des apôtres, on ne peut donc pas boire une tasse de vin d'Anjou sans être dérangé ici ?» Les peaux de bique se mirent à lui parler toutes à la fois. Et parmi la confusion de leurs discours, je saisis à plusieurs reprises les noms du signe de la croix et de maître pied de vache. « N'est-ce que cela ? » reprit ce beau monsieur de Saint-Pierre, dont la voix m'arrivait distincte et nette comme s'il eût fait tout ce qu'il fallait pour cela. La forêt est la forêt. Dans toute forêt, il y a des braconniers. Tous les braconniers sont sujets à se tromper de poil, et il leur arrive de rouler une bête pour l'autre. Le roi n'en sait rien, pas vrai, et le monde va tout de même. » Les peaux de bique ne bronchèrent pas, mais il y eut un bruyant éclat de rire parmi la plèbe des petits métiers de la forêt. « Adam, Adam » fit-on de toutes parts. « Pour sûr et pour vrai, il a raison, faut pas mentir. Ça ne fera rien au roi si on met le Judas par terre. » L'Amazone était restée un peu à l'écart. Je ne la quittais pas des yeux. Il me semblait que sur ses traits je pouvais lire ma destinée. En ce moment, sa physionomie était tranquille et son sourire avait une nuance de moquerie. Cela fit naître en moi l'idée que le gentilhomme apôtre avait la prétention de m'effrayer et peut-être de me mettre en fuite. Je m'en indignais sincèrement. « Ventre bleu, pensais-je, il va voir ce que nous sommes, nous autres de pain d'or. » J'avais toujours bien dans le canon de mes pistolets de quoi fracasser le crâne à lui et à l'un de ses collègues, et mon épée ne tenait pas au fourreau. « Il y a des fêtes de famille, » poursuivit Saint-Pierre, « où il ne faut jamais aller quand on n'a pas reçu d'invitation. Nous sommes tout près du pays de Vitré. Au pays de Vitré, on casse les côtes du curieux qui entre à la noce sans qu'on lui dise « Venez avec nous secouer votre chagrin. »« Oh, hé, là, longourlasse, as-tu ta tuette, mon gars ?» Tout cela était dit à haute et intelligible voix. Longourlasse sortit du groupe des gens de la forêt. Une tête de renard enfouie sous les broussailles d'une énorme chevelure et plantée sur un corps qui était tout en largeur. Il tenait à la main une manière d'arquebuse qui devait bien peser le poids d'un veau. « Lave-la, ma tuette, de vrai aussi, mon sieur vicomte, » dit-il en tirant une mèche de son effrayante perruque. « Mais je ne mens pas, et boude à tout coup, je vais l'amener à Vitré pour son ravaudage, chez l'armurier. » « Il paraît que Saint-Pierre était un vicomte. Y a-t-il un autre affûteur par là ? » demanda-t-il. Personne ne répondit. « Si vous avez besoin d'un fusil, messieurs, » dit paisiblement mon Amazone, « il y a le mien, qui vient d'abattre un magnifique faisan, ma foi, » ajouta Saint-Pierre. « À balle, » acheva l'Amazone, « à 200 pas, » elle riait la coquine. « Ah, ce n'était pas la voix de ma vivette, comment avais-je pu me tromper ainsi ? La voix était jolie, mais décidée, presque effrontée. » Une voix de petit homme. « Bravo, madame la vicomte » cria-t-on de toutes parts. « Faut le descendre vous-même, cet oiseau de malheur. Vous en êtes ben capable, da !» Et j'avais pu la prendre pour ma vivette chérie. Elle ne répondit point et tendit son fusil mignon aux grosses mains de ce langourlasse choisi pour être mon bourreau. Il est vrai que son regard charmant me souriait toujours, étincelant à la fois de bonté et de fine moquerie. Mais je ne me payais point de cela. J'armais crânement mes deux pistolets et je pris cette pose qui veut dire dans toutes les langues du monde « Si vous voulez ma peau, il faudra y mettre le prix. » Langourlasse soupesa le petit fusil, haussa les épaules et se jeta sous bois. Ce qui serait advenu, je n'en sais trop rien. Je suivais de l'œil mon futur assassin, déterminé que j'étais à mettre la tête de Saint-Pierre en compote dès que je verrais le canon du petit fusil s'abaisser. Mais à peine Langourlasse était-il sous bois que de 4 ou 5 côtés à la fois, la forêt se mit à sonner de la trompe. Saint-Pierre siffla. Langourlasse s'arrêta court. Mon Amazone avait tourné la tête en riant. Tout le monde s'agitait, les apôtres comme les pauvres gens. « Monsieur le prévôt garde » fut-il dit au premier son de trompe. Au second, « Monsieur le gruyer, juré !» Au troisième, « Messieurs de la maréchaussée !» Que les préparatifs de mon exécution eussent été sérieux, comme les bonnes gens de la forêt en étaient manifestement persuadés, ou que cette mise en scène, comme la physionomie de ma belle Amazone persistait à l'affirmer, fut destinée seulement à provoquer ma retraite, il n'était plus temps de jouer un pareil jeu. On annonçait en même temps Monsieur le Prévôt garde, première autorité de la forêt, le gruyer juré, personnage dont tout le monde connaissait l'importance, et messieurs de la maréchaussée. C'était au moins deux fois plus qu'il n'en fallait pour faire pénétrer les garanties de la civilisation jusqu'au fin fond de la fosse aux loups elle-même. Les peaux de bique de l'enceinte ne cachaient point leur désappointement. Ils entouraient Saint-Pierre et semblaient lui faire des reproches. Je ne sais si la forme particulière de l'entonnoir où nous étions rendait le lieu sonore, mais il est certain que je saisissais à la volée des mots prononcés loin de moi et presque chuchotés. « Il nous tient, disait-on, c'est clair. Se laisser rouler par un seul Judas, l'affaire allait si bien. Voyons, que décidons-nous » Saint-Pierre rassembla autour de lui les autres apôtres et sa voix tomba si bas que je n'entendis plus rien. Les bonnes gens exclus de l'enceinte se rapprochaient tant qu'ils pouvaient et tendaient l'oreille avidement. L'Amazone se tenait toujours à l'écart. Quand Saint-Pierre eut fini de parler, les peaux de bique se consultèrent. « Et qui fera cela ? » demanda-t-on. « Moi, » répondit l'Amazone à qui justement l'Embourlas rendit son joli fusil, désormais inutile. On hésita. La curiosité des bonnes gens arrivait à être de la fièvre, et j'avoue que mon pouls battait aussi le pas redoublé. « Adieu, va !» dit une des peaux de bique. « On peut essayer. »« Adieu, va !» répétèrent les autres. « Au petit bonheur !» Saint-Pierre fit un signe à l'Amazone, qui marcha aussitôt vers moi, tenant son fusil à la main. Je désarmai mes pistolets et les replaçai courtoisement à ma ceinture.